Eh bien, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus déjà. Soyez bienvenus. Shalom de Dieu sur vos vies. Alors, c'est un jour super parce que c'est le printemps. Enfin, ça y est, on est au printemps. Ça y est, le soleil revient. Ça y est, je sais pas vous, mais quand même, ça aide à se lever le matin. Quand on ouvre ses volets, il fait jour, les oiseaux chantent. Ce matin, j'y vais réveillée aux aurores à cause des oiseaux. Vous vous rendez compte? Merci Seigneur. Donc, je vais prier et puis on va vraiment commencer ce temps de message. On va continuer dans la présence de Dieu. Mais Seigneur, je vais vraiment proclamer ce temps, Seigneur, comme un temps, Seigneur, où on reçoit encore plus de ta parole. Que ce qui s'est passé pendant la louange, Seigneur, quand on a proclamé ta sainteté, Seigneur, c'est ce qu'on désire aussi, Seigneur, pendant tout ce temps, Seigneur, de toute notre vie, Seigneur, mais tout particulièrement en ce moment, Seigneur, que ta sainteté travaille nos cœurs, que ta sainteté transforme nos cœurs, Seigneur. Ce qu'on veut, c'est te connaître, Jésus. Alors, Seigneur, vraiment que nos pensées, nos cœurs, tout, Seigneur, soit rendu captif à ton obéissance, Seigneur, qu'il n'y ait rien qui nous empêche de recevoir ce que tu nous as donné, tu veux nous donner aujourd'hui. Et je proclame, Seigneur, vraiment la puissance de ta vie, Seigneur. La puissance de ta vie, Seigneur, qu'elle soit libérée dans ce lieu, Seigneur. Que vraiment puissions recevoir pleinement ce que tu veux nous donner ce matin. Et Père, je te prie vraiment pour que tu remplisses ma bouche de tes paroles. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Et ma bouche va être remplie de certaines paroles, et ces paroles-là sont sur Jésus. Mais vraiment sur Jésus, quoi. C'est-à-dire que en ce moment, on est à la préparation de Pâques. Et puis je me suis dit, c'est vrai que ça m'a fait penser aussi à quand j'avais fait « Mais qui est Jésus en enquête ?» Vous savez, à Noël, pour ceux qui étaient là. Et puis, on a retracé qui était Jésus dans sa vie en tant qu'homme. Mais là, j'ai vraiment envie de vous expliquer tout ce qu'est Jésus depuis le commencement. Alors, on finira vers 16h30, 17h. Vous inquiétez pas, je sais que vous allez au pique-nique, donc je vous laisserai partir 5 minutes et j'arrive, je reviendrai. Non, ça va aller, ça va être synthétique quand même. Mais voilà, on va fêter Pâques. Et Pâques, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la résurrection de Jésus. Et ça veut dire plein de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire que nous, on a obtenu la vie éternelle, on a obtenu par la puissance de son amour quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment Jésus vit en nous, que nous sommes devenus son temple et que nous avons reçu la vie pleine et entière. Et donc, quand nous allons parler de la résurrection, de la Pâque, bien évidemment, en fait, on rappelle ce qu'il a accompli, le plan parfait de Dieu, par amour pour nous. Cet amour qui est inconditionnel, il l'a manifesté en incarnant notre condition d'homme, et cela de manière parfaite. Alors déjà, le nom de Jésus. Le nom de Jésus vient de l'hébreu Yeshua, qui veut signifier « Dieu sauve ». Je pense que beaucoup le savent, mais c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte. Jésus, ça veut dire « Dieu sauve », Yeshua. Son nom a été donné à Marie au travers d'un ange qui a dit « Voilà ». Tu t'appelleras, dans Matthieu 1, verset 21, tu t'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et donc, il indique déjà la mission même de Jésus, le salut. Donc, son nom était prévu, inscrit. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est de se dire que Jésus est annoncé dès le début, dans la Bible, dans la Genèse. En fait, on ne se rend même pas compte des fois. Et on va commencer par parler de ce qui s'est passé avant dans l'Ancien Testament. Donc Jésus, il est annoncé dès la Genèse. Et tout l'Ancien Testament prophétise de la venue du Messie, de Jésus, Dieu qui s'incarne pour sauver l'humanité. Et on va voir différents prophètes qui ont justement annoncé qui était Jésus, ce qui allait se passer. Et je trouve ça assez extraordinaire de se dire que tout a été fait parfaitement, tout était prévu parfaitement, tout s'est réalisé parfaitement. Alors après, on ne peut pas me dire que ce livre-là, ce n'est pas la vie éternelle, ce n'est pas vrai. Alors on va prendre dans Ésaïe 9, versets 5 à 6, donc ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Il partage une vision de l'avenir qui annonce que Jésus viendra établir son royaume et son gouvernement. Donc là, on ne parle pas forcément de Jésus comme sauveur, mais on parle vraiment qu'il va établir son gouvernement. Alors, à partir du verset 5 de Ésaïe 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et règnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissement, le droit et l'ordre de Dieu, dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son amour ardent. Il établira son empire. Il va affermir et maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu. » Donc, le prophète Ésaïe annonce, il partage cette vision et il la proclame. Ce qui n'est pas évident, c'est vrai, c'est de se dire, de comprendre que, en fait, Jésus est le verbe être de toute éternité parce que Dieu est le verbe être de toute éternité. Et nous, dans notre, dans notre humanité, c'est comme parler de l'éternité, c'est comme quand... Il y a plein de choses quand on dit que pour Dieu, un an... un jour est comme 1000 ans, etc. Enfin, pour nous, c'est pratiquement incompréhensible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était depuis le commencement. Et en fait, Jean nous en parle. Dans Jean 1, versets 1 à 3, il dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, tout était parfaitement prévu de toute éternité. Donc, Jésus a toujours été. Des fois, on fait des distinctions, mais il faut se rendre compte que, voilà, Jésus est. Alors, il y a d'autres prophètes qui ont annoncé, qui ont parlé de Jésus. Je vais vous en citer quelques-uns encore. Il y a Zacharie, dans Zacharie 9, verset 9. Il dit « Jésus viendra comme roi ». Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il viendra humblement, monté sur un âne, et en fait, il fait référence, et c'est ça qui est drôle, c'est que, voilà, après on peut continuer de lire dans Zacharie, je ne vous lis pas tout le passage, mais monté sur un âne. Et en fait, dans Matthieu 21, à partir du verset 4 à 9, la prophétie s'accomplit littéralement et précisément. On voit que Jésus dit à ses disciples « Allez me chercher un âne, le petit de l'ânesse ». Et en fait, exactement les choses se font comme ce qui avait été prophétisé, ce que Zacharie a dit. Ça se concrétise pleinement. Vous avez aussi Jérémie 23, verset 5, qui parle aussi de Jésus comme roi. Je vous laisserai regarder. Et puis aussi Ésaïe 59, verset 20, qui... parle de Jésus rédempteur. Il y a aussi celle d'Ésaïe 53, versets 1 à 12, qui pour moi apparaît comme, comme je pense plusieurs, apparaît comme la plus précise de ce qui va se passer. Parce qu'Ésaïe décrit ici comment Jésus est venu comme rédempteur du péché de l'homme, prévoyant les souffrances horribles qu'il a endurées sur la croix pour nous. Donc c'est Ésaïe 53, versets 1 à 12, on va le lire. Alors, je vais voir si la version que j'ai, je pense qu'elle sera un peu mieux. Hop. Alors, qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise ? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu ? Car devant le Seigneur, le serviteur a grandi. Alors attendez, est-ce que je vous lis là ? Oui, c'est ça. Le serviteur a grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos fautes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi, mais le Seigneur, lui, a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé, du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les criminels dans la mort. On l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé. Il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur jouira de la vie, il en fera l'expérience parfaite. Devant les masses humaines, mon serviteur se relèvera comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands. C'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes de tous les autres et il est intervenu en faveur des coupables. Waouh ! Ésaïe 53 va vraiment être cette prophétie qui annonce pleinement ce que Jésus a fait sur cette terre, ce qu'il a accompli et qu'il a terrassé la mort et qu'il va être relevé. Mais c'est vraiment impressionnant de voir la justesse, mais forcément inspirée du Seigneur, ça peut que être juste, mais les éléments vraiment sur l'humiliation, sur les souffrances physiques, sur justement le fait qu'il va porter le péché du peuple, toutes ces choses sont vraiment déjà données dans l'Ancien Testament pour appeler justement à la vie ce qui va se passer et préparer aussi le chemin. Et il y avait un autre verset que je voulais partager par rapport justement à ce qui est de l'Ancien Testament, de ce qui s'est passé avant que vraiment Jésus vienne sur la terre, incarne en tant qu'homme. C'est Genèse 3, verset 5. Et là, en fait, c'est un verset un peu particulier, mais Genèse 3, verset 5. C'est un verset un peu particulier où en fait, Dieu maudit le serpent. Donc voilà, Dieu cherche Adam, Dieu cherche Ève, Adam dit « Ah, c'est pas moi, c'est la femme », il me dit « C'est pas moi, c'est le serpent », et donc Dieu interroge le serpent. Et donc là, il parle au serpent, et il maudit le serpent, et il annonce que Jésus remportera la victoire en écrasant sa tête, mais que le vainqueur sera blessé, le talon sera blessé. Si je vous lis le verset de manière plus claire pour vous, tac, tac, tac. J'ai dû me tromper de... Excusez-moi, c'est pas ça. J'ai tapé trop vite sur mon ordinateur. Tac, tac, tac. Heureusement que j'ai regardé. C'est 3,15, ouais. J'ai tapé trop vite. Bah oui, j'ai oublié le 1 de mon 15. Donc 3,15, je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête tandis que tu la mordras au talon. Et ce que ça veut dire, dès la Genèse, ça veut dire explicitement qu'en fait, Dieu annonce pleinement que Satan va être vaincu, que la tête va être écrasée, mais que effectivement, alors dans d'autres versions, on parle vraiment du talon blessé. Et en fait, ça évoque que Jésus... va avoir des blessures puisqu'il va aller sur la croix. Et donc, ça rappelle le sacrifice de Jésus. Oui, il y aura la victoire, mais il y aura effectivement eu quelque chose qui sera marqué par la blessure. Et donc, ça symbolise vraiment l'annonce de Jésus sur la croix. Ça symbolise vraiment la venue de Jésus de toute éternité. Dans Genèse 3, déjà, ça y est, c'était sûr, Jésus allait venir. Jésus allait écraser la tête de Satan et il allait être victorieux. Donc après, je vais vous parler de Jésus qui devient homme. Donc, quand Jésus est devenu homme, bah forcément, il est devenu pleinement homme. Il ne nous a pas fait mi-dieu, mi-homme. Non, non, il a été pleinement homme. Il a renoncé à sa position divine et il a choisi une position profonde d'humilité. On l'a lu dans les versets, donc justement, qui annoncent le Messie, qui annonce Jésus. Il viendra avec humilité. Dans Ésaïe, il ne sera ni beau, ni... Enfin voilà, donc il n'attirera pas l'attention. Et en fait, Jésus est venu simplement. Simplement. Et il a pris une position d'humilité. Et ça, en fait, on l'évoque dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Et j'espère que je ne me suis pas trompée. Il a renoncé, donc vous verrez, il a renoncé à sa position divine. Philippiens 2, versets 5 à 8. Jésus, il a accepté de vivre l'obéissance en étant soumis à plein de personnes dans sa vie, en fait. C'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est que ben, il a été soumis à qui ? J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il a été soumis d'abord à ses parents, à Marie et à Joseph. Il a appris un métier, ça veut dire qu'il a dû apprendre des choses, comment faire, comment ne pas faire certaines choses, les dangers, etc. Il a été tenté, et plus que tenté, je pense que lui, il a eu un package assez costaud de la tentation. Et il a vaincu la tentation. Il a été baptisé. C'est vrai que si vous lisez encore ce passage, bah en fait, Jean-Baptiste dit « Mais non, j'ai pas besoin de te baptiser. » Mais Jésus dit « Si, il le faut. Il faut que j'accomplisse les choses dans ce monde. » Et il va être baptisé. Donc il se soumet à ça. Il a été soumis aux lois romaines. Quand il évoque « Est-ce qu'il faut payer l'impôt, etc. » Jésus dit « Oui, il faut rendre à César ce qui est à César. » Donc il a été soumis aux autorités romaines. Et il a été soumis au jugement des hommes, puisque, effectivement, c'est les hommes qui ont décidé que c'était lui qu'il fallait condamner, c'était lui qui devait aller sur la croix, et c'est ce qui s'est passé. Alors, Jésus a été révélé dans son ministère sur la terre de différentes façons. Mais la première des premières façons dont il a été révélé, c'est Jésus comme le Messie. Parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que de base, Jésus, il est venu pour son peuple. Et donc, il est venu pour parler au peuple juif. Et vous allez voir qu'au début, vraiment, il est vraiment évoqué qu'il parle aux juifs, qu'il va dans les temples, qu'il choisit des disciples pour qui sont juifs, pour les former, pour les faire grandir dans la foi juive. Et à un moment donné... La stratégie de Jésus, elle est plus grande que ça parce que son cœur est rempli d'amour pour tous les peuples, bien évidemment. Et donc, il va élargir. Il va élargir. D'abord, il vient comme le Messie. Et puis, on peut voir, il y a un exemple fort, c'est la Samaritaine, en fait, qui montre bien que Jésus, il casse les codes. Il casse les habitudes des Juifs, un Juif parle à un Juif, la religion juive, c'est pour les Juifs. Et Jésus, il casse tout, il casse les codes. Il parle à une femme, elle n'est pas juive. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui fait que c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait. Et il ouvre le salut à plus que le peuple juif. Il veut devenir le sauveur. Pas que le Messie, souvent on parle de Messie parce que ça a un rapport aussi par rapport aux juifs. Mais en fait, il veut devenir ce sauveur pour tous. Et donc, vous pouvez lire dans la Samaritaine, effectivement, l'histoire de la Samaritaine dans Jean 4. Donc, ce qui s'est passé. Comment Jésus, en fait, a abordé une femme qui n'était pas juive? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tous les codes, en fait, sont cassés. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il le fait avec humilité, avec simplicité, et bien évidemment rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, il est venu comme Messie, pour parler au peuple juif. Et puis, après, il est venu comme sauveur. Enfin, après. Et on identifie aussi qu'il est venu comme sauveur, parce qu'on voit qu'il a annoncé... au berger, au tout début, à sa naissance, il a été annoncé auprès des bergers comme le sauveur. Donc ça, c'est dans Luc 2, versets 8 à 11, pour ceux qui prennent des notes. Donc, il a été annoncé comme le sauveur. Ensuite, il a été annoncé aussi comme roi. Donc, il a été annoncé comme Messie, comme sauveur et comme roi. Et là, vous allez me dire, mais attends, quand c'est ce que c'était? Ben, en fait, c'était plutôt sur la fin de sa vie que ça a vraiment été évoqué. C'est pendant qu'il était... Enfin, là, c'est l'exemple que je vais vous donner dans Jean 18, du verset 36 à 37, avec Ponce Pilate, le gouverneur romain. Jésus a été livré, il a été interrogé, et en fait, effectivement, Jésus se révéla à Pilate comme le roi, mais d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et Ponce Pilate, il va pas dire non, mais c'est pas vrai. Il va rien dire. Il va laisser. Et je pense que, à mon avis, peut-être qu'il avait, on ne sait pas, hein, mais il y a eu cette révélation de se dire, ben, en fait, peut-être que effectivement, il est vraiment le roi. Et on voit après, lors de la crucifixion, qu'il est écrit, effectivement, sur la croix, qu'est-ce qui est écrit en haut? Le roi des Juifs. Donc, il y avait déjà Jésus, roi des Juifs. Il y avait déjà quelque chose qui proclamait qu'il était roi. Après, il y a un moment donné aussi où Jésus il dévoile son ministère comme Seigneur, comme Maître. Souvent, il parle d'être Maître, mais aussi d'être le Seigneur. Il dévoile ça aux disciples. On le voit dans Jean 13, 13. Il dévoile qu'il est Seigneur, mais un Seigneur bien particulier. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver les pieds de ses disciples. Donc, c'est un Seigneur qui se met en tant que serviteur. Un roi serviteur, un seigneur serviteur. Il est élevé, mais il sait aussi vraiment être humble. Et vraiment, là, à ce moment-là, je pense que ça doit être un conflit dans la culture qu'ils peuvent avoir d'être un seigneur, comment il doit se comporter. Un maître, comment il se comporte. Et puis là, en fait, il n'y avait rien de ce qu'un maître ou un seigneur allait faire. Il allait laver les pieds des disciples, il allait laver la partie du corps qui était la plus sale. Et il l'a fait, et je pense qu'il l'a fait avec joie. Et il l'a fait parce qu'il voulait honorer ses disciples, il voulait honorer ceux qui étaient avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il est venu aussi comme un berger. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rappeler de tout ce que je vous ai dit, Sauveur, Messie, Seigneur, Roi et la berger. Donc, il est venu comme berger dans Jean 1, versets 11 à 16. Dans ce passage-là, Jésus s'adresse à un groupe de Juifs qui est composé en partie de pharisiens et il se révèle comme étant le bon berger, le berger de Dieu, qui a le droit et l'unique responsabilité de prendre et de conduire les brebis, le peuple de Dieu. Je pense que les pharisiens n'ont pas trop apprécié et ils le proclament tout simplement. Et il dit vraiment qu'il est le berger. Et c'est le rôle qu'il veut jouer dans nos vies. Il veut être ce bon berger. Un berger, forcément, si on regarde sur le métier vraiment de berger, c'est quelqu'un qui connaît ses brebis. Mais pas que, il faut que les brebis le reconnaissent. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Elles sont conduites par lui et doivent lui faire confiance et lui obéir. Et Jésus, il est ce berger qui est prêt à sacrifier pour une seule brebis. On le voit dans Matthieu 18 à partir du verset 10. Matthieu 18, verset 10. Quand il parle, vous savez, des 99 brebis. Et il en manque un. Il manque une brebis. Et voilà, le berger, il n'hésite pas. Il part. Il va chercher sa brebis. Et en fait, c'est ce que Jésus nous demande, c'est de l'accepter comme le bon berger. L'accepter et le reconnaître comme berger. Et c'est ça qui va nous garder. C'est ça qui va nous permettre de grandir aussi, parce que on a beau dire, un berger, il amène ses brebis, souvent c'est dans la montagne, donc il y a des passages qui sont dangereux. Et si les brebis, elles décident pas de suivre vraiment là où va le berger, par où il passe, bah, elles tombent dans le précipice, elles se font mal, voilà, c'est des accidents qui arrivent. Mais plus elles connaissent le berger, plus elles lui font confiance et plus elles avancent et elles grandissent. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire avec nous. Il veut vraiment être ce bon berger. Mais un bon berger, ça a aussi une houlette, vous savez, ce bâton avec le crochet là. Et il est là aussi pour nous arrêter quand on va trop loin, quand on décide de passer une barrière, quand on décide d'aller dans des endroits qui ne sont pas faits pour nous. Et bien, il est là pour nous retenir aussi, mais avec son amour, parce qu'il nous aime. Pas parce qu'il veut nous taper, qu'il veut nous garder enfermés dans un enclos, pas du tout. Mais parce qu'il ne veut pas qu'on sorte de son chemin. Et je trouve que la vision du berger, c'est vrai que des fois, on l'a un peu enlevée. Enfin, moi, je trouve qu'on n'en parle pas forcément souvent maintenant. Parce que c'est une vision, voilà, il est le bon berger, on en a beaucoup parlé, on parle aussi de ça aux enfants. Mais en fait, on a vraiment besoin de saisir, chacun de nous, que Dieu, Jésus est notre berger. Et un berger, c'est pas anodin. C'est quelqu'un qu'il faut être attentif au son de sa voix, attentif à ses gestes, et il faut vraiment le connaître pour pouvoir le suivre. Alors, est-ce qu'on connaît vraiment notre bon berger ? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que c'est un vrai chemin, un vrai chemin d'obéissance aussi que de connaître le bon berger. Et donc après, bah forcément, Jésus, effectivement, il va sur la croix et il est sacrifié, il a vaincu la mort. Et donc, après son ascension, on parlera plus de Jésus comme le fils du charpentier, on parlera plus de Jésus comme le fils de Marie, enfin si, mais plus vraiment, puisqu'en fait la Bible déclare qu'après avoir accompli la volonté de son Père sur la terre, Jésus règne avec gloire sur toute la création. Amen.
Amen.
Il règne avec gloire. Et donc c'est ce Dieu de gloire après aussi que nous élevons, parce qu'il a vaincu la mort. Il a combattu, il a été victorieux et maintenant il est élevé au-dessus de tout. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire. C'est qu'il s'est humilié, il a été mis plus bas que terre et en fait il a aussi été élevé comme roi des rois. Et je voulais juste vous laisser aussi cette image qui me parle vraiment. C'est cette symbolique de Jésus qui a deux couronnes. Cette couronne d'épines qu'il a eue dans sa vie d'homme, et cette couronne de gloire qu'il a de toute éternité. Et j'avais vraiment envie de vous dire, vous êtes obligés de connaître le roi de ces deux couronnes. Si vous ne connaissez pas le roi, le Jésus qui a porté cette couronne d'épines, vous ne pouvez pas connaître le roi qui est couronné de gloire, qui a cette couronne de gloire. Et c'est tellement important. Il a accepté d'être roi serviteur, et il a porté cette couronne d'épines, c'est le signe de l'humiliation. Roi, humiliation. Est-ce que vous trouvez que ça va ensemble? Je ne trouve pas, mais il l'a accepté. Et il a accepté d'être ce roi-là, ce roi qui s'humilie pour pouvoir après, en fait, nous ouvrir le chemin pour qu'on soit fils et filles du roi des rois. Et on doit le connaître, mais pas qu'une fois. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il faut qu'on reconnaisse ces deux couronnes que Jésus porte. Ou à porter, mais qu'il porte toujours. Il y a toujours cette symbolique des deux couronnes. Et il faut vraiment qu'on saisisse à quel point c'est bon de savoir qu'il est le sauveur grâce à cette couronne d'épines. Il est le rédempteur de nos vies. C'est vraiment la première étape de notre foi. Et donc maintenant, au travers effectivement de cette couronne de gloire, il veut aussi être notre Seigneur. Il va être celui qui nous conduit. Il va être notre bon berger. Il va être notre roi. Mais il faut toujours aussi qu'on revienne à cette couronne d'épines. On a besoin chaque jour de revenir à la croix. On a toujours besoin de revenir à un temps de repentance. On est humain et on a besoin effectivement d'aller à la croix et demander pardon au Seigneur, d'être purifié. Chaque jour, il faut qu'on se purifie devant le roi qui a porté cette couronne d'épines. Et après, qu'on continue d'aller. On ne reste pas à la croix. On va plus loin. On va chercher notre Seigneur, le roi de gloire. On va chercher celui qui règne. Et Jésus, il veut vraiment qu'on regarde à lui, à ce qu'il est, mais il faut qu'on le connaisse. Je vous le dis souvent, mais plus en fait on cherchera à le connaître, plus en fait on avancera, on passera cette étape de Jésus Sauveur et qu'on ira vraiment chercher le Jésus Seigneur, le Jésus notre berger, plus on connaîtra ses écritures, plus on parlera, on ira, on prendra des temps avec le Seigneur, plus on va grandir dans la foi. Et de Jésus Sauveur à Jésus Seigneur, en fait, on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'on sera devenus des disciples. On sera devenus des serviteurs du Seigneur. Et on va accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir avec ce qu'il nous a donné, nos dons, nos talents. Et c'est hyper important de se rendre compte que mais c'est ce que Jésus veut aujourd'hui. Il veut vraiment que tu ne regardes pas en arrière. Tu sais que tu as un passé, mais ce n'est pas le plus important, c'est l'avenir. Et c'est ce qu'il veut, c'est que tu regardes en avant. Les brebis, elles ne regardent pas le chemin qu'elles ont fait, parce que je pense que des fois, elles devraient flipper, parce qu'on passe par des chemins pas très sympas. Non, elles regardent devant, elles regardent le berger qui est devant, qui est là, qui donne le chemin, qui montre le chemin. Et j'avais une petite image là-dessus qui m'a fait un peu sourire. C'est un prêtre qui faisait une prédication. Et donc, il demande aux gens, je vais faire pareil, je vais dire, qui a une voiture ? Donc, est-ce que vous avez une voiture qui a une voiture ? Ouais, ça va. Bon, même si vous n'avez pas de voiture, vous voyez comment ça se passe, une voiture, comment c'est ? Donc, quand vous êtes dans cette voiture, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a juste devant vous ? Dans la voiture ? Il y a un pare-brise. Merci. Il est grand, ce pare-brise. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau du pare-brise, un peu plus haut ? Un rétroviseur, voilà. Mais ce qu'on peut constater, et vous allez être d'accord avec moi, c'est que le rétroviseur, il est vraiment tout petit. Voilà. Et par contre, le pare-brise, il est immense. Parce que c'est la même image qu'avec Jésus. Et vous avez déjà déduit ce que je voulais dire. C'est que Jésus nous demande de regarder en avant. Bien sûr, il y a un petit pare-brise et on peut voir un peu en arrière. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de regarder là, devant nous. Là où on va et pas ce qui s'est passé derrière. C'est pour ça qu'il y a une dimension qui est différente. Notre vision, elle ne doit pas être étriquée pour aller devant, mais elle doit être grande. Et par contre, pour ce qui est de regarder derrière, on n'a pas besoin de tout voir tout le temps. Ça se réduit, il n'y a pas besoin de plus parce que le sang de Jésus, il est venu, il a posé sa main sur nos vies, sur notre passé. Et il faut vraiment se rendre compte que ce qu'il veut, c'est qu'on regarde devant. Alors, tous ceux qui conduisent maintenant, à chaque fois, quand vous allez prendre votre voiture, vous allez dire « Seigneur, je veux regarder devant, je ne veux pas regarder en arrière dans mon passé, dans ma vie, mais je veux aller de l'avant avec toi, Seigneur. Tu m'as ouvert le chemin et je veux rentrer dans ce que tu m'as donné. » Amen. Alors voilà, la grande question du jour, vous avez compris, que j'avais vraiment envie de vous reposer la question « Qui est Jésus pour toi ?» Aujourd'hui, qui est Jésus pour toi dans ta vie ? Comment tu te le représentes ? Est-ce que tu te le représentes bien ? Est-ce que tu t'es créé un petit Jésus à ta façon, avec ce que tu voulais entendre de lui, ce que tu ne voulais pas voir de lui ? Donc, qui est Jésus pour toi ? Est-il ton sauveur ? Premier point. Est-ce que tu es convaincu qu'il est celui qui t'a sorti de la mort, qui t'a relevé et qui t'a pardonné de tous tes péchés ? Est-ce que tu vis dans la condamnation ou est-ce que tu vis dans la victoire ? Donc, est-ce que Jésus est ton sauveur aujourd'hui même ? Est-ce qu'il est devenu ton Seigneur, ton roi ? Ça, c'est encore une autre question. Qui est-il pour toi aujourd'hui, Jésus ? Des fois, on est tellement dans l'activisme, d'en faire plein de choses, mais là, on s'est rendu compte que, eh bien, dans sa parole, il est écrit pleinement qui il était, mais il veut qu'on le connaisse aussi dans notre cœur. Il faut que ça descende dans nos cœurs. Alors, est-il ton sauveur ? Est-ce qu'il est ton Seigneur, ton roi ? Est-ce qu'il est le bon berger qui dirige ta vie ? Et ça, c'est ces trois questions que je vais vous poser ce matin. Et je vous propose simplement qu'on prenne 5 minutes, où on puisse vraiment fermer nos yeux et simplement dire « Seigneur, Jésus, je veux te connaître pleinement. » Et qu'on puisse vraiment simplement être surcentré sur nous-mêmes. Et prendre ce temps et dire « Jésus, depuis toute éternité, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a été annoncé la plénitude de ta vie. Dieu, tu as tellement aimé, tu nous as tellement aimé que tu as donné ton Fils. Tu l'as manifesté en le donnant comme... sur cette terre pour être vraiment Eh bien, celui qui nous donne, qui nous ouvre le chemin, mais aussi celui qui va être condamné, celui qui va être brisé, celui qui va être humilié, Seigneur. Tu as fait tout ça pour nous. Et Père, on veut te connaître, on veut te suivre. Alors parle à nos cœurs ce matin. Jésus, révèle-toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, effectivement te reconnaître comme mon sauveur pleinement. Mais je veux aussi, Seigneur, que tu sois ce Seigneur, que tu sois ce bon berger qui dirige ma vie, qui sait toutes choses en moi. Et Jésus, j'ai besoin de te connaître, de te reconnaître pour savoir si ce que je fais, c'est juste, si ce que je fais, c'est pas juste. Seigneur, j'ai besoin que, eh bien, tu mettes ton approbation dans mon cœur, dans ma vie. Je veux briser toute image que j'aurai de toi qui ne sont pas justes. Et je veux t'écouter, je veux apprendre de toi, je veux grandir en toi, Seigneur. Alors écoutons vraiment ce que le Seigneur veut nous dire. Ah, Jésus. Si tu as une décision à prendre dans ton cœur, n'hésite pas à la prendre, à rappeler pleinement qui est Dieu, qui est Jésus dans ta vie. Ce Dieu d'amour. Continue de parler à ton roi, à ton sauveur, à ton Seigneur. Invoque son nom. Si t'as pas l'habitude de le faire, c'est pas grave. Simplement dis Jésus, parle-moi, enseigne-moi.